Alors bienvenue dans le 9e épisode de La Bonne Aventure. La Bonne Aventure est une émission de podcast réalisée par la Slow Galerie et qui interroge les artistes le jour de leur vernissage. On parle de leurs inspirations, de la genèse de l'exposition, de leur façon de travailler, de leur vie d'artiste et de leurs projets aussi. Et l'émission s'enrichit d'échanges croisés avec d'autres artistes invités. On accueille aujourd'hui Sandrine Torre-Desmer, alias La Filature, qui expose à partir de ce soir et jusqu'au 21 février 28 broderies. Son exposition s'appelle « En hiver, je pense à la mer ». Sandrine est originaire de Perpignan où elle habite et la mer Méditerranée est tout près. C'est sa muse. Et l'invitée surprise de cette émission est une autre artiste de grand talent, Hélène Glowinski, qui expose à la Slow Galerie à la suite de Sandrine en février. L'une brode, l'autre grave. La pratique d'Hélène est la gravure sur bois. Bonjour Sandrine et bonjour Hélène et merci beaucoup d'être là. Donc on va commencer juste un aparté avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que enfin c'est quand même le vif du sujet, mais quand on voit pour la première fois tes broderies Sandrine, la première chose, enfin en ce qui me concerne, que j'ai pensé, c'était mais j'ai jamais vu quelque chose de pareil. C'est pas vraiment de la broderie, c'est des tableaux impressionnistes faits d'assemblages de tissus, des scènes avec une vitalité étonnante et qui sont composées de plein de choses que tu glanes de bouts de grillage de tissus, de boutons que tu as trouvé, de pièces de monnaie. Tu peux nous raconter comment est-ce que tu crées un tableau?
Oui, effectivement. Donc moi, je me définis comme une brodeuse libre ou une brodeuse libérée de la contrainte technique que j'ai apprise depuis enfant. Et un jour, ma très bonne amie m'avait dit « Mais lâche-toi avec ta broderie, fais-toi plaisir ». Et à partir de là, je me suis sentie capable d'interpréter un peu tout. Et essentiellement ce qui me plaît dans la vie, donc des œuvres d'art, des paysages que j'aime, comme évidemment les plages, comme on peut voir dans l'expo. Et mon autre passion, c'est de glaner. Donc en fait, ma technique, aujourd'hui, elle réunit tout ce que j'aime. C'est ramasser, glaner, puis assembler des vieilles choses pour en faire... un paysage ou autre chose.
Tu disais que c'était presque un défi, en fait, parfois, de rendre une deuxième vie à ce que tu récupères partout et de les mettre ensemble jusqu'à ce que ça donne quelque chose de...
Oui,
très singulier, unique.
Je trouve que c'est devenu un sujet d'actualité, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Est-ce qu'un déchet, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument jeter ou évacuer? Ou au contraire, est-ce que une petite pièce de tissu, ça peut pas nous inspirer? Et moi, il se trouve que ça m'inspire beaucoup, donc je ramasse beaucoup. Et je trouve que l'intérêt de cette démarche, c'est que ça rend les ouvrages uniques, puisque je ramasserai jamais deux fois la même chose. Et une fois que j'ai utilisé une petite pièce ou de tissu ou de corde ou de n'importe quoi, je sais que je referai pas pareil.
Et y a justement, parce qu'hier tu revenais, on était en train de préparer l'accrochage de ton expo, et tu revenais d'un endroit. Alors Hélène, enfin tu le connais aussi cet endroit qui est à Pantin, qui s'appelle
La Ressource des Arts.
La Ressource des Arts et qui
La Réserve des Arts.
Et t'avais dans ta besace plein de chutes de tissus que t'avais récupéré là-bas.
Oui.
Et tu mêlais tes mains dedans avec un plaisir en disant mais regarde comme c'est ça vit, ce tissu est vivant, regarde comme c'est souple et on a je me suis dit en fait la avant même la création, ce qui est important chez toi, c'est transformer la matière. Ça commence par le toucher.
Oui. Non, mais je suis une dingue de tissu, une dingue de fil. J'adore cette sensation du beau tissu aussi, puisque hier j'avais essentiellement trouvé des morceaux de soie et je trouve qu'il y a rien de plus satisfaisant que de plonger ses mains dans de la soie comme ça. Et moi j'ai la chance de travailler ces matériaux-là qui sont déjà plaisants à toucher. Enfin le contact, il est c'est hyper doux, c'est mystérieux aussi, parce que la soie, selon qu'on la regarde, voilà, elle a plusieurs couleurs, et c'est peut-être aussi ce qui permet au tableau en tissu d'être un peu plus vivant, peut-être. Voilà.
Ah oui, la texture du tissu sur tes tableaux, ça donne une épaisseur, enfin, il y a c'est du relief, mais c'est vrai que vous êtes des transformatrices de matière. Hélène aussi.
C'est vrai que j'aime beaucoup les textures. Je trouve qu'il y a beaucoup de sentiments qui passent par le toucher. Je pense que toi aussi. Et donc voilà, une matière va me faire ressentir quelque chose. Et après, je vais essayer de l'utiliser pour le transmettre graphiquement aussi. Enfin, ajouter quelque chose graphique par-dessus cette sensation.
Mais je vois les broderies en fait que je montre. Les personnes sont toujours tentées de mettre les mains dessus, de saisir le tissu. Enfin, c'est attractif, quoi. Enfin, on a envie d'avoir la pièce dans les mains, de la retourner, de passer ses doigts dessus. Enfin, c'est attirant, quoi. C'est...
Voilà. Oui, et le rendu, il est. On disait impressionniste. On a dû te le dire souvent parce que de près, il y a énormément de détails. Et c'est de loin que le sens surgit, en fait, que la scène prend toute son amplitude. Donc, on passe en fait notre temps à se rapprocher, à s'éloigner, à se rapprocher pour saisir la magie du détail, parce qu'il y a beaucoup de détails dans tes scènes. Et il y a eu un article de Sophie Fontanelle qui sur toi en septembre dernier, qui mettait l'accent sur le raffinement des tenues. Il y a les shorts, la veste à carreaux, le petit cabas. Il y a beaucoup de c'est quelque chose qui t'intéresse aussi. Enfin, tu les fais vivre en les habillant.
Alors ça, c'est peut-être mon ADN familial, hein, puisque mes ancêtres étaient dans le tissu, puisque j'avais un arrière-grand-père tailleur, une arrière-grand-mère corsetière, ma grand-mère brodeuse, ma mère couturière, donc du fil et des tissus, c'est un peu mon ADN. Et les vêtements aussi, j'ai un rapport un peu spécial avec les vêtements, parce que quand j'étais enfant, c'était ma mère qui me faisait mes propres vêtements, et j'étais tellement fière d'avoir des pièces uniques. J'ai même eu, quand j'étais gamine, j'avais la robe des petites filles de la petite maison dans la prairie, et j'étais la seule à avoir cet habit-là, et j'avais plusieurs robes comme ça, et j'étais tellement fière d'être unique. Voilà, donc aujourd'hui je m'habille beaucoup plus simplement, mais c'est quand même important pour moi. Voilà. Le vêtement, c'est une longue histoire.
Ça singularise tout de suite un personnage sur tes scènes, sur les broderies là qu'on a. Ils ont tous, ils sont souvent en maillot de bain.
Hein, oui.
Vu le contexte. Mais il y a une petite scénette avec une jeune fille là qui est près, où tu lui as mis un bracelet qui scintille. Alors il est mini ce personnage, et un mini bracelet, c'est vraiment, et c'est ce qui donne. Il y a une vie. Et même avec une économie, même il y a 3 points de broderie parce que les personnages sont tous brodés. Mais il y a un élan, enfin il y a le corps a un mouvement avec un minimum de points. Enfin c'est extraordinaire.
Le fait qu'il y ait très peu de points pour signifier, on va voir autant l'objet que la matière, que le fil. Et justement, quand on se rapproche, on regarde autant le motif dessiné, brodé, et juste la texture, que ce soit celle de la trame du tissu ou le fil, le nombre de fils qu'il y a sur cet écheveau. Voilà. Et donc, il y a deux niveaux de vraiment, enfin, il y a plein de niveaux de lecture, mais j'aime bien, il y a un côté flou, quoi. C'est-à-dire, quand on, de loin, on voit une scène et puis on se rapproche, elle se floute, plus on se rapproche, parce qu'il y a la texture de la matière qui prend de plus en plus de place.
C'est vrai. Alors c'est vrai que je suis multicouche, hein. Il y a des ouvrages qui sont très épais parce que pour rendre la profondeur, par exemple, enfin je me suis spécialisée dans l'eau et pour faire de l'eau, enfin pour faire la mer, en fait, il faut beaucoup de couches pour représenter la profondeur, l'écume, la vague. Enfin, tout ça, c'est différent, et tout ça, ça implique de superposer à la fois des couches, des matières différentes, et c'est ce que j'adore faire, quoi. Enfin, voilà.
La superposition, ça te permet aussi de créer des profondeurs.
C'est ça. Oui, tout à fait.
Superposition de couches, mais superposition de couches très très calculée, très rationalisée, enfin entre guillemets, parce que si ta formation te sert là-dedans, tu as été ingénieur urbaniste pendant de longues années.
Oui.
Et en réalité, c'est ce que tu nous disais aussi, c'est que les échelles sont exactes, les perspectives sont exactes, les ombres portées sont exactes. Et donc tu superposes, mais tu superposes avec un esprit très structuré et qui fait que c'est juste en fait la scène. Elle sonne juste parce que elle est réalisée avec énormément de rigueur.
Oui, alors ça, je l'ai pas forcément identifié de suite hein, que ma formation initiale me servait dans la broderie, parce que justement, je mettais les deux activités vraiment. À l'opposé, hein, c'est-à-dire le travail sérieux, un peu stressant, et puis la broderie le soir qui me permettait de tout lâcher. J'avais jamais rapproché que effectivement l'histoire de l'échelle, de la perspective et tout ça, en fait, c'était dans ma formation initiale que j'avais acquis les bases, quoi. Et c'est vrai que je travaille toujours avec des images à la même échelle que celles que je vais broder. Donc, et je m'appuie vraiment sur la définition des plans. Donc, je démarre par le plan lointain, et puis je me rapproche au fur et à mesure de la scène. C'est vrai que c'est très méthodique.
Tu travailles surtout d'après photos, c'est ça? Et c'est des photos que tu prends toi, ou des fois c'est des photos que tu trouves, c'est ça?
Oui, c'est un peu mélangé. C'est-à-dire que quand je suis à la plage, je prends des photos de mes voisins de plage, sans leur demander la permission. Donc c'est très mal. Et puis après, on les reconnaît pas, voilà. Et puis après, je glane aussi des images sur Instagram, par exemple. Et là, je demande l'autorisation de pouvoir utiliser la photo. Et je cite en général l'auteur. Et puis après, j'aime bien aussi utiliser des photos parues dans la presse. Donc je lis Le Monde le dimanche, enfin le week-end, je suis abonnée au journal papier, et j'aime bien aussi ces photos d'actualité. Voilà, c'est mes trois grandes sources d'inspiration.
Et en fait, du coup, la question que j'avais, c'est s'il y avait une différence quand tu fais une broderie à partir d'une photo que t'as prise toi, donc tu connais la scène réelle, ou quand c'est une photo que t'as trouvée ou que t'as de quelqu'un d'autre. Parce que dans tes broderies, il y a une sorte de transcription, quoi, d'une première image. Quand t'as pris la photo, il y a même deux transcriptions. Il y a la première transcription de la photo par rapport à la réalité, puis la deuxième transcription quand tu brodes. Enfin, je me demandais s'il y avait une différence de façon de faire.
Il pourrait y en avoir parce que, en gros, je me souviens bien des sensations. C'est-à-dire, par exemple, la grande pièce là, de la plage, c'était la plage de Bidart. Je me souviens, voilà, de quelles vacances.
Oui, il y a une souvenir de l'ambiance.
Voilà, ouais. De mon humeur. De ce qu'on avait fait avant, de ce qu'on avait fait après, de ce qu'on avait vu aussi après, parce que là on était sur le sentier du littoral, on avait parcouru là de Biarritz jusqu'à Guétari, et on avait fait une halte à Bidart, et j'avais pris cette plage là voilà, donc il y a peut-être une note d'ambiance qui est plus présente, mais ça ne me gêne pas de broder les photos des autres. Enfin, j'ai pas de réserve.
Et moi, j'ajouterais que quand on voit une photo, la photo d'inspiration, parce que souvent tu les postes sur Insta, tu postes la photo et la broderie derrière. Oui. La photo, elle est toujours belle, évidemment, mais la broderie, ça la sublime complètement. Elle annihile tout le charme de la photo quasiment, tellement tu la transfigures, tu t'en éloignes quand même beaucoup, mais ça reste la photo. Mais il y a une vie qui il y a une intensité de vie qui s'ajoute et qui fait vibrer la scène comme jamais, en fait. C'est une œuvre complètement à part entière.
C'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais brodé. Donc ça, c'était une commande, parce que quelquefois, je réponds à des commandes, bon, très peu, parce que je préfère broder selon mon inspiration. Mais je suis toujours touchée quand des amoureux me contactent très en amont d'un événement pour faire un cadeau à leur amoureuse. Là, j'ai du mal à dire non. Parce que je trouve ça attendrissant qu'ils aient pensé longtemps avant, qu'ils aient pensé à une broderie parce qu'ils savent exactement que ça va plaire. Enfin, je trouve ça, voilà, ça me touche. Et du coup, après, souvent, je dis oui. Et j'avais brodé un couple d'amoureux qui était à vélo et de dos. A priori, c'est pas un sujet que je prends facilement parce que, bon, des personnages, ils étaient quand même assez grands en échelle. Et mon compagnon m'a dit « Ne rate pas la fille, hein, c'est pas la peine de la faire plus... » C'est ça, de la faire avec des hanches qui dépassent. Donc j'étais vraiment sous pression parce que il fallait vraiment qu'ils aient l'air amoureux alors qu'ils étaient de dos. Enfin, voilà, ça met une pression énorme. Et ma foi, bah, le résultat a plu. Enfin, il a surtout plu à l'amoureuse, il a plu à l'amoureux, et puis il a beaucoup plu quand je l'ai publié. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Enfin, je trouve que c'était émouvant, quoi.
Les scènes de couple qu'il y a dans cette exposition, elles sont tellement tendres et poétiques et sensibles, c'est irrésistible. Je ne sais pas si elles sont issues de photos, mais je pense que le couple photographié est largement moins sensuel et il y a beaucoup moins d'intensité. Enfin, c'est extraordinaire, en fait, ce que tu fais. Tu
leur
donnes une deuxième
vie.
Oui, oui, oui. Parce que tu nous disais aussi que jamais tu ne faisais de petits croquis préparatoires, hein. Tu ne dessines pas sur ton tissu. Alors les tissus que tu utilises, évidemment, sont aussi glanés, c'est des torchons, des pièces, mais c'est toujours du très beau tissu, c'est des pièces de lin ou de coton où la trame est très très belle et sert de support. Là, la pièce centrale, qui s'appelle donc l'écume du jour, qui représente une vaste scène de plage avec plein de plagistes et de parasols colorés, et aussi réalisée sur un morceau de torchon en lin, mais dont la couleur représente, enfin, a été choisie, j'imagine, très minutieusement pour ça aussi par toi, parce qu'elle représente le sable, en fait.
Et oui, c'est un vieux torchon usé, un peu décoloré, taché, donc, c'est une pépite que j'ai trouvée chez Emmaüs. Alors, il y en avait deux. Donc, j'en ai utilisé un, celui qu'on voit à l'expo, qui est vraiment la pièce entière. Et l'autre, je l'utilise, mais vraiment avec parcimonie. Je vais utiliser jusqu'au dernier centimètre carré parce que, bon, ben voilà, typiquement, ça, je le retrouverai pas. Et voilà, c'est génial pour le sable, aussi bien mouillé que sec. C'est du vrai sable.
Et là, ce sont beaucoup de scènes, en fait, de la Méditerranée. T'es originaire, t'es catalane, originaire de Perpignan, ta famille est de Perpignan. Et la Méditerranée, tu l'aimes, j'imagine, profondément. Mais le titre, juste un petit mot pour justifier le titre « En hiver, je pense à la mer ».
En hiver, je pense à la mer parce que déjà, bon, j'habite à côté de la mer, mais je n'aime pas y aller en hiver. Quand la plage est déserte, quand il y a... voilà, ce temps d'hiver dans ces cités balnéaires qui sont complètement désertées, je n'aime pas. Alors, je vais pas dire que j'adore y aller en été quand c'est bondé, quand on peut pas circuler. Non, quand même pas. Mais j'aime bien quand même la plage habitée, quoi. J'aime bien regarder les gens. J'aime bien, les observer. Je trouve que c'est des scènes très tendres. Parce que les gens, ils se sont posés, ils sont en vacances. J'adore les grandes vacances où on sent que vraiment les gens profitent de leurs gamins, ils profitent. Enfin, et je trouve que la plage, ça, pour moi, ça symbolise tout ça, quoi. C'est le temps qui se pose, le stress qu'on pose aussi.
L'insouciance, soudain, on se retrouve l'espace des grandes vacances de 3 semaines. Enfin, ça dépend de la durée, mais on oublie tout, on met de côté le costard cravate, et on s'huile le corps et on va se promener en slip toute la journée avec une promiscuité.
Oui, alors
c'est joyeux.
une promiscuité qui est même étonnante parce qu'on voit rarement des conflits sur la plage, alors que les gens sont très proches les uns des autres. Il pourrait y avoir mille occasions de se fâcher parce que les gamins des uns vont jouer trop près des autres, et finalement les gens sont calmes. Et voilà, ça me surprend toujours, et voilà, j'aime beaucoup y aller le matin, puis regarder les gens qui arrivent, comment ils s'installent, qui décide où on met le parasol. Bon, ça, c'est souvent l'homme.
Toutes les stratégies.
Les stratégies de on installe le camp, voilà, et on montre bien aux enfants où est-ce qu'on est, où sont leurs limites, enfin, je... J'aime bien, c'est un morceau de sociologie, je trouve.
Oui, et du coup, l'expo en 28 broderies, c'est des instantanés de cette ambiance. Il y a à chaque fois où c'est des fois des focus, en fait, sur un personnage, ou bien des scènes de couple, mais chaque pièce est une illustration. Et on peut même parler d'illustration brodée. Mais est une illustration de cette ambiance joyeuse des grandes vacances sur les plages de Méditerranée avec les parasols colorés. Et c'est très, très vivant.
Et moi, j'ai une question. Tu brodes quand t'es à la plage ou c'est quand tu rentres chez toi?
Alors non, à la plage, je n'y arrive pas. Parce que c'est compliqué, il y a toujours un peu de vent, donc bon, les tissus partiraient. Par contre, je brode quand on fait de longs trajets en voiture. Sur l'autoroute, je brode et j'adore c'est ça. Et j'adore broder en voiture quand on part en vacances ou quand on revient aussi, je brode. Et du coup, je sais exactement les broderies que j'ai faites en voiture, par exemple, et le trajet qu'on faisait. Et ça, donc j'ai un compagnon qui conduit très très bien, très paisiblement. Je l'ai pas choisi pour ça, mais
c'est
une de ses qualités, voilà. Il a un bon regard sur ce que je fais. Il n'hésite pas à me suggérer des modifications ou à me dire que c'est raté. Voilà, donc j'aime beaucoup cette idée de broder en voyage, parce que j'aime cette idée aussi que l'ouvrage, il bouge avec moi, que je peux le sortir, je sais pas, dans un hall d'aéroport. Bon, je prends plus l'avion depuis un moment, mais j'ai déjà brodé dans des aéroports, dans l'avion, dans le train, évidemment.
C'est vrai que la broderie, pour moi, ça symbolise beaucoup ça, quelque chose qu'on peut toujours avoir sur soi et sortir à n'importe quel moment avec voilà, un petit peu de fil, une aiguille et s'y mettre pour 10 minutes, pour une heure.
Et moi, j'aimerais bien donner envie aux gens de se mettre à l'ouvrage, parce que voilà, c'est aussi une façon d'échapper aux réflexes qu'on a maintenant tous, hein, de sortir son portable, de naviguer là sur le web, et puis à bout d'un moment on sait plus pourquoi on fait ça, enfin, alors que voilà, sortir un ouvrage, ça permet de passer un temps super, c'est-à-dire qu'on voit pas passer le temps. On a fait quelque chose de son attente.
Et on concrétise le temps qui passe.
Voilà, tout à fait. Et donc, cette expo, elle peut donner envie à quelques personnes de se mettre à l'ouvrage, je trouverais ça super.
Parce que on peut aussi peut-être en parler juste deux mots, mais effectivement, la broderie, pour toi, ça a presque été une thérapie. Tu disais que c'était presque le fil a été une main tendue dans des moments compliqués et difficiles.
Oui, ça, c'est... donc c'est une activité que donc j'ai toujours pratiquée.
D'abord à la fin de tes heures de travail quand tu étais
quand j'étais cadre donc dans la fonction publique et puis chef de service avec quand même beaucoup de responsabilités.
Trois enfants.
Un mari avec un travail très sérieux qui l'occupait évidemment beaucoup. Et le soir, je dégageais quand même un petit moment pour broder. Ça me permettait de faire tout reposer, enfin d'avoir un temps calme. Et voilà, de finir la journée dans une activité qui m'appartenait. Donc j'ai toujours fait ça, à la grande surprise de mes amis qui comprenaient pas comment je pouvais trouver le temps de broder. Et ça, alors j'ai une philosophie dans la vie, c'est que je pense qu'on trouve toujours du temps pour faire ce qu'on aime. Donc ça, pour moi, l'histoire de pas avoir de temps, c'est finalement qu'on n'a pas trop envie ou enfin qu'on n'est pas trop motivé. Vraiment, moi, j'ai toujours trouvé du temps pour faire ce que j'aimais. Et puis ensuite, bon, malheureusement, j'ai traversé des épreuves très très lourdes dans ma vie. Et là, la grande chance que j'ai eue, c'est la broderie, puisque alors que j'étais vraiment dans des moments hyper douloureux, presque en perdre la raison, il y a toujours eu une main tendue liée à la broderie, qui est venue vers moi et qui voilà, qui me disait.
C'est un fil de vie presque.
Tout à fait, ouais. Qui me disait, tiens bon, accroche-toi, accroche-toi au fil. Enfin, bon, maintenant j'en fais une métaphore, mais je suis vraiment étonnée de voir avec quelle coïncidence, à chaque fois que j'ai été confrontée vraiment à la grande douleur, eh bien, il y avait la broderie qui venait me sauver, quoi, qui me disait, non, mais accroche-toi. Ça va aller, il y a un lointain qui est paisible, ou il y a un lointain qui vaut le coup, enfin, et notamment la mire. Quand tu m'avais envoyé ton premier message, je traversais cette période, une des périodes très compliquées. Et voilà, c'était comme un sauvetage en pleine mer.
C'était en mars 2020, c'est ça, ouais, premier confinement. Ouais. On avait beaucoup discuté au téléphone.
Ouais.
Le contact, le fil est passé tout de suite.
Tout de suite, ça c'est aussi le mystère. Hein. Je suis étonnée de voir combien la broderie m'apporte de contacts et d'échanges très chaleureux. Étonnamment... proche, il y a quelque chose de mystérieux, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas trop de barrières, quoi. Les gens m'envoient des messages très sympas, et puis j'ai l'impression que je les connais depuis toujours. Enfin, c'est vraiment étonnant, quoi. C'est le fil rapproche. Mais moi, j'ai longtemps brodé, donc toute seule dans mon coin. Et je trouve que ça fait un écart terrible entre je brode seule dans mon atelier et les ouvrages que je crée vont dans une boîte, parce que moi je les ai jamais affichés dans la maison ou chez moi. Bon, j'aime pas les avoir pour moi, quoi.
Ah oui, tu n'as pas de...
je n'ai pas d'exposition chez moi. Et ils allaient dans une grosse boîte. Et puis quand je devais faire un cadeau, j'offrais mes ouvrages. Et là, en fait, on passe à une étape qui est diamétralement opposée, c'est-à-dire que mes ouvrages sont pas dans une boîte, ils sont magnifiquement encadrés. Ils sont pas pour mes amis proches, ils sont exposés dans une galerie avec des personnes que je ne connais pas. Enfin, je trouve que c'est un grand écart terrible, quoi.
Il y a une part angoissante à ça?
Oui, c'est... Oui, de faire un grand écart, c'est toujours angoissant. On n'est pas sûr de sa souplesse.
Parce que tu disais, justement, même si tu brodes depuis toujours, c'est vraiment l'histoire de ta famille. Tu te définis comme une novice. Tu dis, moi, je suis une... Tu as quelque chose où tu as l'impression de vivre pour la première fois plein de choses, peut-être depuis que Sandrine Torret des Mères est devenue la filature, donc quelques années, enfin, 2 ans, 3 ans.
Oui, mais moi, j'adore ça, être novice. Enfin, je trouve que, à mon âge, à 55 ans... découvrir, être sans référence devant une activité ou devant un sujet. Moi, je trouve ça génial, c'est-à-dire que ça oblige à se poser plein de questions.
Puis t'as une liberté totale aussi.
Une liberté, ça oblige à aller vers les autres pour demander de l'aide. Et je trouve ça hyper rafraîchissant, quoi. Enfin, j'ai 55 ans. Dans mon ancien travail, on venait plutôt me demander conseil, et là c'est moi qui vais demander conseil, donc moi ça me va très très bien, quoi. Je trouve ça hyper Oui, hyper porteur, quoi.
Enfin, oui, c'est enrichissant aussi d'apprendre, oui, d'être soumis à des premières expériences, enfin, d'être dans des processus de... Enfin, l'apprentissage, c'est beau, en fait. Enfin, on aimerait être toujours dans cette...
Toujours en formation, c'est passionnant, oui. Oui. Après, on peut l'apprendre en plein de métiers, hein, mais de se mettre dans cette position de toujours apprendre, c'est super intéressant.
Parce que l'une comme l'autre, et c'est le cas d'Hélène aussi, vous expérimentez beaucoup les choses, vous vous lancez aussi dans des pistes ou des inspirations, enfin ça fait partie de votre processus créatif de toujours chercher à vous renouveler, c'est un peu bateau comme expression.
Je trouve aussi que c'est un défi qu'on se donne, quoi, parce que... On va pas rester cantonné, et puis ça, ça serait presque le danger que je vois, c'est-à-dire que, je vois quand je publie sur Instagram, si je publie la mer, tout le monde aime la mer. Si je publie d'autres sujets, alors, par exemple, j'ai une passion pour les sites industriels. Bon, effectivement, un site industriel brodé, ça intéresse beaucoup moins de monde. Mais moi, j'adore faire ça. Je trouve que les matières qu'on va utiliser sont différentes, l'approche est différente. Et puis, j'aime bien aussi ce défi de mettre en broderie des sujets qui sont considérés comme moches ou pas attractifs. Ou bon, voilà, j'ai brodé la station pétrolière là de Port-la-Nouvelle, parce que pour dans ma vie, ben, elle a beaucoup compté, hein. C'est-à-dire j'habitais à Strasbourg dans mes premières années de carrière, et quand je revenais à Perpignan par le train de nuit, quand je voyais Port-la-Nouvelle, je me disais c'est bon, je suis presque à la maison. Et bon, Port-la-Nouvelle, ce paysage lointain de citernes de pétrole et tout ça, ça peut paraître moche, mais moi, pour moi, ça a toujours été un signal de « je suis rentrée, c'est super ».
C'est l'espoir.
Voilà, c'est l'espoir. Donc, tout ça pour dire que moi, je serais tentée de broder des paysages très très raides, parce que c'est aussi notre quotidien et notre environnement qu'il faudrait assumer, puisque c'est bien nous qui les avons créés. Mais c'est vrai que spontanément, quand je présente mes ouvrages, ça attire moins.
Mais il y a peut-être une question d'éducation du regard des autres aussi. Il faut, persister et nous habituer, parce qu'il y a peut-être une surprise, un étonnement au départ de ce sujet. Et en fait, s'il est traité de façon récurrente et s'il fait partie vraiment, d'un point de vue et d'un travail de création continue. Il y a l'éducation, il faut nous aider, hein, Sandrine. Il faut nous éduquer le regard. Hein. Je pense que c'est important de continuer à traiter de sujets comme ça qui soient pas forcément ceux qui sont les mieux accueillis au départ. Hein. Faut pas céder à la facilité. Faut pas nous laisser, nous, spectateurs, céder à la facilité.
C'est-à-dire, je pense qu'on préfère accrocher un paysage de mer chez soi, peut-être qu'un paysage de centrale pétrolière, effectivement. Après, il y a un côté majestueux et théâtral dans un paysage industriel qui est magnifique, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de le traiter. Après, effectivement, c'est pas celui qu'on met dans sa chambre, forcément, mais peut-être que si, on peut.
Ça dépend. Il y a Caroline Bouillet, qui est une de nos artistes, qui fait des gravures magnifiques au carborandum de friches industrielles, et qui porte une poésie, une mélancolie, une vie, en fait, et qui est, c'est très inspirant, c'est très beau. Mais effectivement, c'est des paysages qui sont peut-être plus qui portent une forme de nostalgie aussi, de nostalgie, de mélancolie plutôt.
Par rapport à la plage, c'est sûr que la plage, c'est les vacances, c'est la liberté, c'est le soleil, c'est le sable, la chaleur, enfin. C'est
trop tentant.
C'est irrésistible.
Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, la broderie, quand on l'évoque comme ça, auprès de personnes, c'est souvent des fleurs, des papillons, des petits trucs comme ça. Et moi, j'aime bien prendre le contre-pied de ces sujets et d'aller vraiment à l'inverse des fleurs, quoi. Enfin, et d'ailleurs, parmi les phrases que j'ai brodées, je suis très tentée de broder « on n'est pas là pour broder des fleurs ».
Parce que oui, on l'a pas dit encore, mais je pense que oui, c'est aussi des broderies présentées ce soir, enfin dans cette exposition. L'autre plaisir de Sandrine, c'est que tu brodes des phrases ou que tu détournes ou que tu glanes dans des conversations que t'as chopées dans le bus ou dans des cafés. Et il y en a peut-être quelques-unes que t'as en tête.
Oui, alors parmi mes
perles,
celles que j'adore, moi, c'est j'ai les hanches qui dépassent. Et ça, c'était lors d'un repas au restaurant avec ma fille. Et puis, c'était au moment des soldes. Et il y avait deux jeunes femmes qui s'étaient assises à la table à côté. Et donc, elles revenaient de faire leurs achats. Et donc, elles commentaient ce qu'elles avaient acheté ou pas acheté. Et l'une des deux dit, ben, moi, j'ai pas pris ça parce que j'ai les hanches qui dépassent. Et je me demandais, mais elles dépassent de quoi? Donc j'ai attrapé la phrase et je l'ai brodée. Et puis après, bon, il y a d'autres phrases que j'invente moi-même.
Il y en avait une, à chaque fois j'y pense quand il y a grève, c'était avant on cassait tout, mais non, c'était quoi?
Oui, c'est ça. On cassait tout, mais on respectait. Ça, c'est un collègue qui m'a dit ça. Enfin non, il m'a pas dit ça, il l'a dit en réunion. Et je trouvais ça mais tellement énorme. Je lui ai dit, écoute, je prends ta phrase là. Et alors quand je lui ai montré écrite dans mon carnet, bon, il a ri et je lui ai offert un exemplaire de cette phrase. Mais
tu lui as fait un exemplaire
Pas forcément, mais ouais, ça peut. Voilà, mes best-of, oui, je les ai brosés en plusieurs exemplaires, après d'autres non. Et alors, celle qui plaît beaucoup, c'est je cherche un truc classique, presque punk, un peu punk. Donc ça, c'est de moi.
Mais et le nom de la filature, c'est quand même assez intéressant parce que quand on discutait la dernière fois, tu me disais mais je l'ai choisi comme ça, un peu parce que mes enfants m'ont dit fais un compte Insta, c'était en 2020. Et après tu t'es rendu compte, je sais pas comment le processus dans ton cerveau, mais quand même vous aviez une entreprise familiale de fabrication de laine.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est de mon côté paternel. Donc en Catalogne, il y avait une entreprise qui s'appelait Toro de Mer avec mon nom et qui était un négociant en laine et un revendeur de laine. Comme il y avait par exemple le Fil d'Art en France, il y avait Toro de Mer en Catalogne. Et donc il faisait commerce avec Cuba, je crois.
Alors ça, c'est incroyable cette histoire de lien entre Perpignan et Cuba, quoi, en fait.
Alors c'est pas Perpignan, c'est la Catalogne. Voilà. Donc je t'expliquais qu'il y avait une ville en Espagne, Bégur, qui est vraiment une perle en architecture, puisque les industriels qui s'étaient enrichis à Cuba étaient revenus avec ces modèles de maisons cubaines et ils avaient construit leur propre maison à Bégur, donc c'était leur maison de villégiature essentiellement, avec cette architecture cubaine. Et ça donne une atmosphère très étrange, mais il faut vraiment aller voir, c'est magnifique. Et alors je sais pas si dans ma famille ils avaient leur maison à Bégur, mais je sais qu'ils avaient fait commerce avec Cuba aussi.
Mais c'est quand même incroyable dans ton histoire, parce que t'es passé par des phases intermédiaires, juriste, d'abord de formation, ensuite ingénieur urbaniste, mais le fond du fond, c'est quand même le fil depuis toujours. Enfin, c'est presque malgré toi, c'est incroyable que tu aies rejoint, que tu aies laissé maintenant. Je pense que tu es presque totalement libéré de ton travail. Tu savoures maintenant à plein temps le fait de broder.
Oui, mais je crois que quand j'ai démarré les études. Je pense que jamais j'aurais pu imaginer que ça pouvait être un métier. Et je trouve ça triste parce que Alors, je sais pas si c'est une histoire de génération, mais moi, dans ma tête, un métier, c'était forcément avoir une activité sérieuse, stressante. Voilà,
faire des heures sup,
pas compter ses heures, enfin vraiment s'impliquer, ne pas dormir la nuit parce que on pense au travail, on pense aux problèmes qu'on va retrouver le lendemain. Enfin, pour moi, un vrai travail, c'était ça. Et là, bah, à 55 ans, je découvre qu'il y a une autre vie possible, quoi. C'est bon, qui m'est permise parce que voilà, mon travail plaît, et puis ça, c'est une chance, hein. Mais je l'aurais jamais imaginé quand j'avais 20-25 ans. Jamais je me serais déjà projetée là-dedans, et puis imaginé en vivre. Ou voilà, ça, c'était l'idée ne m'est jamais venue à aucun moment.
Se jeter à la mer, c'est en plus une expression de
tout à fait.
C'est courageux aussi, enfin. Mais alors parfois on dit courageux, enfin. Bon, Hélène, tu nous diras aussi comment c'est pour toi, parce que toi, t'es architecte de formation, t'as beaucoup exercé en tant qu'architecte. D'ailleurs, tu as œuvré ici à la Slow Galerie, parce qu'on a, on en profite tous les jours des travaux d'aménagement que t'as fait pour nous. Mais, c'est pas vraiment du courage, finalement. C'est presque vivre, en fait. On n'est pas là pour survivre. La vie est trop courte. Il faut qu'on vive tout simplement. Et donc, il faut qu'on vive de ce qu'on aime faire. Hélène?
Alors, moi, ma mère est artiste, donc à la base, ça a toujours été un métier possible pour moi, enfin, en tout cas envisageable, et j'ai plutôt cherché d'abord à faire autre chose, tout en me rendant à l'évidence que non, je n'arriverai pas à faire autre chose que d'être artiste. Mais là, c'est assez récent ce passage-là. Et après, la carrière d'artiste, c'est pas non plus facile. Alors, on n'a pas forcément les mêmes obligations impératives que dans une vie de cadre ou d'architecte indépendant, mais on est toujours en prise avec soi-même et avec ses états d'âme, son état d'esprit, et ça, c'est pas forcément facile quotidiennement. Mais disons qu'on peut, en tout cas, justement pas les mettre de côté et s'y confronter, et donc ça permet d'avancer, et c'est très rassurant, je trouve. C'est un des grands avantages de la création.
Parce que ce qu'on connaît peut-être moins quand on travaille effectivement dans des structures comme ça, des entreprises, et qu'on est salarié, etc., c'est peut-être le doute. Alors que quand vous êtes artiste et que vous choisissez cette vie, le doute, il existe. Alors, il est toujours là, ou est-ce qu'il s'absente un peu et parfois il vous laisse tranquille, mais...
Alors moi, le doute, il est au summum quand j'ai réalisé une pièce vraiment, je vais pas dire exceptionnelle, parce que ça serait me faire trop d'honneur moi-même, mais quand vraiment je suis hyper satisfaite d'un ouvrage, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire derrière, quoi. Et là, ça me plonge dans un doute, mais vraiment bien épais, quoi. Je me dis, je ferai plus jamais aussi bien, je vois pas, enfin, et c'est compliqué d'en sortir de ça. Donc en général, je passe par une transition où je brode des phrases. Je me dis, bon, ou alors je range mon atelier. Ça aussi.
C'est super utile, ranger son atelier.
Ah, ça fait un bien fou, parce que du coup, on fait réémerger des morceaux qu'on avait totalement oubliés. Enfin, pour moi, des morceaux de tissu ou, donc déjà, ça fait du bien parce que, bon, voilà, on classe, et je trouve que le classement, ça permet de se remettre le cerveau à l'endroit. Et puis, cette découverte de matière, ça réenclenche une envie, ça réenclenche une idée. Enfin, voilà, c'est le conseil que je donnerais aux gens qui doutent. Voilà. Et non, mais c'est ce que je découvre aussi, maintenant que je suis dans cette activité, c'est vraiment un doute. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça plaira encore dans 10 ans? Est-ce que moi j'aurais envie de faire ça aussi? Ça, c'est aussi la question qu'on se pose quand on se dit qu'on va changer de vie. C'est, moi je le faisais une heure par jour, Ben, le soir, est-ce que d'en faire mon activité toute la journée, est-ce que ça va continuer de me plaire? Bon, il se trouve que oui, hein. Puisque maintenant je brode le jour et je brode le soir, je continue. Donc ça
tu savoures.
Je savoure. Oui, tous les matins quand je me lève, je me dis que j'ai de la chance et je savoure.
Après, tu t'es installée depuis assez peu de temps dans un atelier où tu cohabites avec d'autres artistes. Je pense que ça, c'est important d'avoir une émulation, une artiste qui fait des accessoires, une autre artiste plasticienne à Perpignan.
Alors, en fait, il y a une artiste qui fait des accessoires de coiffure et l'autre est galeriste. Et elle a monté donc une nouvelle galerie à Perpignan. Du coup, j'invite tout le monde à venir.
Et qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle la Tralala Galerie, rue Saint-Jean. Qui est dans un bel immeuble historique de Perpignan et qui va ouvrir mi-février.
Et donc tu exposes là-bas avec voilà, une expo collective.
Il y aura une expo collective, un hommage à Soulages. Donc il y aura un peu de noir.
Il y aura des phrases.
Il y aura des phrases. Ma phrase, un peu de noir soulage beaucoup. Voilà, donc je suis très fière. Et j'ai fait des interprétations de Soulages en tissu. Voilà, c'était très très noir et ça m'a beaucoup fatigué les yeux. Mais oui, c'est bien d'avoir un espace commun comme ça. Déjà pour sortir de chez soi, je trouve que du coup le rapport à l'activité est quand même différent. C'est-à-dire je me rends quelque part pour faire mon activité. Et puis, je suis avec des trentenaires très chouettes.
Oui, on est
très...
bien entouré de jeunes, hein, je vous confirme. Hein,
oui,
moi aussi.
Oui, et les jeunes, aussi. Accepter les...
Non, mais c'est vrai que, oui, mélanger les générations, c'est hyper vivifiant. Parce que...
Donc, on va passer un message aux jeunes, adoptez les quinquas.
Voilà, c'est ça, mélangeons-nous.
Oui, hein, mélangeons-nous.
Ne nous laissez pas sur le bord de la route à décrépir seul. Et est-ce que, justement, il y aurait un projet, il y a ce projet d'expo, le 16 février déjà, c'est ça, hein, c'est oui, le vernissage, c'est et le 16 février, oui. La galerie Tralala, rue Saint-Jean, à Perpignan. Et il y aurait quelque chose, un projet idéal, quelque chose, tu te dis, peut-être faire une broderie, un ouvrage de 3 mètres sur 5, ou bien broder pour, je sais pas, tel sujet, tel projet.
Alors,
ou pas, hein. Tu navigues à vue.
Les galeristes avec qui je travaille réclament tous une grande œuvre. Monumental. Et moi, j'explique que moi, ma patte, on va dire, c'est de faire dans le mini. Donc, si je fais un truc énorme, mais en mini, ça va me prendre un maxi de temps, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur parce que déjà, cette idée de l'ouvrage que j'amène, ça sera beaucoup plus compliqué si c'est très grand. Et puis...
C'est plus la même philosophie aussi.
Voilà, c'est plus du tout la même approche. Et aujourd'hui, je ne me projette pas dans une grande pièce, mais je l'exclus pas non plus. Et voilà, ça serait vraiment...
En tout cas, c'est pas ton fantasme.
Non, pour l'instant, non. Et...
T'avais des envies de verre, tu disais...
Oui, peut-être des prairies ou de l'herbe. Moi, au printemps, j'ai toujours une envie, c'est de me rouler dans l'herbe. Et je pense que dans une vie antérieure, j'ai dû être, je sais pas, un animal qui mangeait de l'herbe, parce qu'au printemps, j'ai...
Quel animal mignon, parce que quand même...
Comment une vache, peut-être.
Oui, c'est vrai que c'est mignon, une vache. C'est élégant, oui. Oui, ça a des beaux yeux aussi.
En Tunisie... Pour dire à une fille qu'elle a de beaux yeux, on lui dit qu'elle a des yeux de vache.
Ah oui, d'accord. Oui. Ben écoute, on va essayer de répercuter le compliment, voir ce que ça donne en France.
On va passer des yeux de biche aux yeux de vache.
Donc voilà, peut-être les prochaines créations de...
Des vaches dans
des
un
vaches,
pré.
Des vaches, des moutons, quelque chose de pastoral.
Oui.
Du vert, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de vert dans l'illustration en général, dans les dessins. C'est une couleur qui est mal aimée.
Oui, ça ne plaît pas trop. Enfin, elle se vend pas très bien. J'ai beaucoup imprimé en vert, ça se vend moins bien.
C'est vrai que on a fait l'expérience avec Hélène, ouais. Des gravures en déclinées en vert avaient moins de succès que quand tu changeais de palette de couleurs.
Ouais, c'est
alors
pareil.
Que le vert, c'est tellement beau.
Mais oui, mais quand je cherche des tissus pour faire de l'herbe ou pour faire des arbres, il y a très peu de tissus verts. Donc je fais un appel aux créateurs de tissus, faites du verre.
Mais oui, le verre c'est la vie en plus. Hein.
Oui. Très bien.
Alors, juste un petit mot avant de passer au tirage de tarot pour contextualiser l'exposition d'Hélène qui arrive en février, vernissage le 23.
Oui, je
pense. 23 février, jeudi 23 février, ça va s'appeler Fragments. Alors, quelques mots d'introduction.
Ah ben alors zut, j'ai pas du tout réfléchi à ce que je pouvais dire. Fragments, l'idée c'est de choisir des morceaux, des cadrages, des bouts. Mon univers c'est plutôt un univers végétal et minéral et c'est prélevé comme un peu un scientifique pour un peu expérimenter autour d'un thème, d'une matière, d'une texture, d'une couleur. Voilà, Fragment, ça va être ça. Ça va être des petits bouts que j'aurais triturés un peu pour en sortir quelque chose.
Et c'est un peu de toi aussi, en fait. L'ensemble des fragments représente la totalité de ton essence.
C'est forcément un petit peu moi, parce que c'est des choses qui me parlent, qui me touchent, même si ça reste assez, assez abstrait. C'est des choses qui me parlent. Je sais pas forcément dans quel sens ça me parle. Des fois, je mets le doigt dessus. Des fois, je mets pas du tout le doigt dessus. Mais ça va être des formes, des équilibres, des teintes, des textures qui me parlent. Donc oui, c'est moi. C'est un bout de moi.
Voilà. Et c'est de la gravure sur bois. Ça sera un ensemble je pense, au moins une vingtaine. Déjà, t'en as créé pas mal de gravures, petit format, grand format, où on entre des fois dans des fragments qui ressemblent à des cavernes. Enfin, c'est magique parce que c'est abstrait et en même temps, on se l'approprie très facilement.
Voilà, c'est souvent entre la, ça peut être abstrait, mais on peut imaginer quelque chose, mais tout le monde va pas imaginer la même chose. Des fois, c'est un peu plus figuratif, donc on a moins d'interprétation. Mais j'aime bien rester à cette frontière.
Et c'est l'heure venue. Merci Hélène. L'heure est venue du tirage de tarot. Donc on va, Sandrine, tu vas mélanger les cartes avec ta main gauche en les brassant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu coupes avec la main gauche. Et là, t'en prends quatre l'une après l'autre avec ta main gauche, sans les découvrir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ah, la lune. L'impératrice. La justice et le mât. C'est l'aventure qui arrive, en fait. Départ sur les routes. Est-ce que tu as des voyages prévus, même si c'est pas en avion ?
Peut-être au Japon, oui.
Ah, mais c'est ça. Nous ne cherchons plus. Peut-être, c'est sûr. c'est très joli. Alors, la lune, c'est la créativité, en fait. C'est en ce moment. C'est une carte qui est très positive, qui est aussi... une carte de où tout est double en fait, il y a beaucoup d'ambivalence, beaucoup de peut-être de doute aussi éventuellement, mais le doute pousse à la création. L'impératrice c'est toi, maîtresse femme qui règne sur ton monde. La justice c'est l'équilibre. Donc tout ça c'est très positif, ça s'enchaîne bien et donc on était dans une ça semble suggérer, je sais pas s'il y avait une question sous-jacente à ce tirage, que tu es dans une phase à la fois où tu es en pleine maîtrise de toi-même, en pleine phase de création aussi. Donc en pleine expansion un peu comme l'univers sur lequel tu règnes et avec un équilibre beaucoup d'équilibre et de stabilité et le mât, c'est juste la petite fantaisie de la fin de ce tirage parce que le mât c'est le personnage en fait qui la carte n'a pas de numéro en fait. C'est la numéro 22, bon, c'est la dernière lame du tarot, mais c'est le départ, c'est le voyage. Donc c'est un voyage aventureux.
Très bien, parce que je suis complètement ravie de cette prédiction.
Tu pars au Japon quand, a priori ?
A priori, en avril.
Ah oui, donc c'est bientôt, c'est sous 3 mois, donc c'est tout bon en fait. Tu vois, c'est hyper précis.
Oui, parce qu'en fait, on va vendre notre voiture, et si on la vend, on part au Japon.
Ah oui.
Oui.
Donc c'est presque fait en fait. Je pense la voiture, il n'y a pas trop de risque que vous la vendiez pas.
Je sais pas.
Allez, c'est avec la cagnotte de la voiture que vous aurez le voyage au Japon.
Tout à fait.
Et ça va être génial si vous partez au Japon. Au niveau inspiration, tu vas ramener plein de fils, de bouts de tissu.
Alors je rêve de ciseaux japonais aussi.
Ah ouais.
Et oui, parce que c'est vraiment les maîtres de la lame.
Ah oui, ils sont bien les ciseaux.
Et oui. Donc moi, il me faut des ciseaux qui coupent jusqu'au bout, très précis.
Le sabre aussi.
Oui, alors peut-être que je prendrai un sabre pour envisager des ouvrages plus grands et que je découperai au sabre.
Et les tissus aussi, ça doit être.
Et puis les tissus, bien
sûr. Bon glanage en
perspective. Et puis tout quoi. C'est c'est un rêve.
Ah oui.
Je crois que mon film préféré, c'est Lost in Translation, que j'ai dû voir. Je le connais par cœur, j'écoute la musique de temps en temps, ça c'est et donc là bah ça serait la réalisation de ce rêve-là.
Bon, a priori c'est bon. Hein.
D'accord.
Ouais,
merci Lamia pour ce voyage.
Tu peux prendre les billets. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, merci de votre temps.
Merci.
Merci beaucoup. Et l'équipe de la Slow Gallery.
Merci Cyril et Clémence Trossevin au son et au montage aussi. Clémence Trossevin qui expose aussi donc à partir de septembre, je crois que le vernissage est le 1er ou le 2 septembre.
Le 7 septembre.
Et rendez-vous ce soir pour la grande fête du vernissage en hiver, je pense à la mer avec Sandrine, Hélène, on te retrouve ce soir aussi, et il y aura un spritz géant, voilà, comme d'habitude.
Très bien, on sera là.
À ce soir.
Merci.